Bonjour à tous, je suis Thomas Lejeune, je suis géomaticien à l'EPTB Meurthe-Madon, donc l'établissement public territorial de Bassin. Et on va parler pendant les 15 prochaines minutes des apports et des limites de la cartographie historique dans un contexte de programme d'action et prévention des inondations. Donc l'EPTB est l'acteur géomapien de la prévention des inondations qui est basé à Nancy. Et on porte notamment un papy sur un de nos bassins versants que je vous présenterai juste après. Donc, il faut savoir que tout nouveau dépôt de programme d'action et de prévention dans les inondations déposé en préfecture doit contenir une étude géohistorique. Pourquoi? Eh bien, afin que le GEMAPIEN dispose de la chronologie des crues passées sur son territoire en termes d'aléas, d'impact, de gestion de l'événement, et qu'il ait aussi connaissance de l'évolution des enjeux de son territoire au cours des 2-3 derniers siècles. Donc, le PTB a missionné le laboratoire de géographie de l'Université de Lorraine pour réaliser cette étude, et un zoom était attendu sur 4 cours d'eau du bassin versant. Donc, voici le bassin versant en question, c'est le bassin versant de la Meurthe. Donc, on peut voir la Meurthe juste là, c'est un affluent de la Moselle. Donc c'est le principal cours d'eau de l'étude. Et il y a également une attente, un zoom qui est sur la Fave, la Vesouse et la Mortagne. Pour situer, la principale ville du bassin versant, elle est située ici, c'est la commune urbaine de Nancy. Voilà, donc je présenterai d'abord les grands résultats de l'étude en vous présentant certains documents. J'aurai une approche multiscalaire de nos résultats et je finirai par présenter les grandes incertitudes de notre étude. Donc, comme je vous le disais, le PTB, nous, on porte un papy sur l'ensemble du bassin versant de la Meurthe qui fait 3 000 km². Donc, on avait vraiment une attente vis-à-vis de cette étude d'un travail à cette échelle. Donc, un des premiers résultats qu'on peut donner sur l'évolution de notre bassin versant, c'est donné par le diagramme de Sankey. Il exprime les changements d'usage de sol entre 1830 sur la carte d'état-major et 2018 avec la donnée de Crowell Landcover, donc avec toute la prudence hein, bien sûr qui est associée à cette donnée. Et il s'y ainsi donc 55,9 milliers d'hectares correspondent à des terres arables sur la période 1830-2018. Et 29,8 milliers d'hectares sont des terres devenues des forêts, et ainsi de suite. Donc, sur un peu moins de 2 siècles, finalement, on constate une très forte réduction des terres arables au profit des prés. Donc là, ça s'explique par un changement de pratique agricole avec une plus grande place qui est laissée à l'élevage, notamment en fond de vallée, et également une forte progression de la forêt. Alors, à une échelle un peu plus locale, on peut également quantifier l'évolution des surfaces forestières. Donc, en vert foncé, c'est la digitalisation des espaces forestiers sur le cadastre napoléonien. Et en vert clair, ce sont la forêt, c'est une surface forestière sur Corinne Landcover. Corinne Landcover, on voit bien là encore cette progression visuelle. Plus récemment, les données de Corinne Landcover permettent aussi d'apprécier à cette échelle du bassin versant l'évolution de l'artificialisation, donc en revenant sur les 70 dernières années. Et on notera notamment une forte évolution des territoires artificialisés, donc plus de 140% de la surface occupée entre 1949 et 2014, au détriment notamment des terres agricoles. Donc, un autre résultat qui nous intéresse, nous, acteurs GEMAPIEN, c'est l'évolution des enjeux pour quantifier cela, on s'est appuyé sur une méthode qui consiste à utiliser la baie des topos de l'IGN et à cartographier à différentes années, du coup, les différents bâtiments, ou du moins la surface de sol. On en a profité également pour cartographier les formes alluviales, et pour ça, on s'est basé sur la thèse de David, qui date de 2016. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un zoom sur un des tronçons du bassin versant. Et donc, ce qu'on voit, c'est en Bordeaux, la Meurthe en 1830, donc qui évolue sans contrainte. Et en 1949, on voit le cours de la Meurthe en bleu déjà canalisé le long du chemin de fer, ici en pointillé. Aujourd'hui, le constat est un peu plus saisissant encore, c'est-à-dire qu'on a une Meurthe qui est obligée d'évoluer, enfin, du moins qui n'a pas de possibilité d'évolution latérale avec des gravières en l'imageur, et également des bassins de décantation du sol liés à l'importante activité du sel qu'on a, qui s'est développée à partir de 1870 sur le bassin versant. Cette artificialisation, on l'observe également assez bien à proximité des grandes agglomérations, et je pense notamment à Nancy. Donc on revient en 1830 avec la vieille ville que vous voyez ici en jaune. On voit vraiment que c'était assez loin de la Meurthe, et la Meurthe, elle, justement, très avec un, comment dire, un cours assez naturel, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, le constat est un peu plus saisissant. On voit que vraiment les activités humaines, les bâtiments ont vraiment mité l'ensemble du nageur, et le cours d'eau a été rectifié à certains endroits. Donc, en quelques chiffres, le linéaire de la Meurthe, c'est moins 7 km en l'espace de 70 ans. Donc, on l'a calculé à partir de 1950. Et en contrepartie, on a une augmentation de la surface au sol des bâtiments limageurs qui a été multipliée par 3. Donc, on passe à 210 hectares, complètement imperméable. Et un chiffre, cette fois-ci, un peu plus thématique, c'est la surface qu'occupent les extractions de matériaux en limageur. Donc, il faut savoir qu'il n'y en avait pas du tout en 1950 et 1970. Par contre, depuis, ça occupe quasiment 50 hectares de notre 500 hectares pardon, de notre bassin versant. Donc, les chiffres que je vous donne là sont calculés à partir de cartes plus ou moins récentes. Hein, je reviens souvent sur il y a 70 ans. Donc c'est une série de photos aériennes sur lesquelles je reviendrai après. Mais si on veut des chiffres un peu plus anciens, notamment sur la carte d'état-major, bien alors là, oui, on a la carte d'état-major, mais aussi d'autres documents plus anciens, notamment ceci. Donc on est sur une représentation de la carte des Nodins. Donc la carte des Nodins, c'est une particularité régionale lorraine. Donc c'est une carte qui a été réalisée entre 1728 et 1739 par des ingénieurs géographes, et c'est la première source cartographique avant la carte de Cassini, puisqu'elle est 1740, et la carte d'état-major qui cartographie l'ensemble de notre bassin versant. Donc elle représente assez bien les territoires ruraux et urbains, et elle fournit une information très intéressante ponctuellement, notamment des gués, des bagues, des passerelles ou encore des moulins. Voici la totalité de la frise chronologique avec les différents documents qui ont été utilisés au cours de l'étude géohistorique. À partir du 19e siècle, sans surprise, on retrouve la carte d'état-major. Ponctuellement, le cadastre napoléonien a pu être utilisé également, mais voilà, toujours dans cette optique d'étude à l'échelle du bassin versant, on en parlera assez peu. Et à partir du 20e siècle, une série de photos aériennes rectifiées qui ont été géoréférencées, sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc, je vous parlais des documents anciens. Il faut rester prudent lorsqu'on les utilise, et notamment vraiment les deux plus anciens, la carte des Nodins et la carte de Cassini. La carte des Nodins, des personnes ont essayé de la géoréférencer sous SIG, et une erreur quadratique moyenne de supérieure à 300 mètres a été calculée. Donc je reviens vraiment à une carte qui a une vocation plus d'information qualitative, plus que de mesure d'évolution du bâti ou encore du cours d'eau. Faut également prendre des pincettes lorsqu'on utilise la carte d'état-major. Sur la Charente, là, on a un calcul de l'erreur quadratique moyenne, là encore supérieur à 30 mètres en moyenne. Et la représentation des villes et villages sur la carte d'état-major est quelque peu critiquable. Après, ça reste tout de même le document le plus ancien qui nous permet de donner un état initial du territoire et du cours d'eau. À partir de 1950, on bénéficie d'une série de photos aériennes verticales géoréférencées par des étudiants en licence pro SIG. Au total, ils ont géoréférencé 800 clichés répartis sur 4 périodes, donc 49, 1949, 70, 88 et 99. Un parti pris a été fait d'utiliser, de couvrir la globalité du bassin versant sur plusieurs périodes, plutôt que d'utiliser les orthophotos des années 50-60, certes plus précises. Donc les étudiants ont estimé qu'il fallait entre 6 et 10 points d'amer pour géoréférencer les photos dans le laps de temps qui leur était imparti. Mais ça peut induire quelques erreurs de décalage. Notamment, on voit ici la photo de gauche avec 6 points d'amère. Lorsqu'on rajoute quelques points d'amère, on arrive à avoir un calage de notre cours d'eau vraiment propre. On est, voilà, on est dans une commune où le lit de la Meurthe n'a pas bougé depuis la fin du 19e siècle. Et on sait donc comment caler la photo derrière. Également, on est sur des photos qui datent de la seconde moitié du 20e siècle. Donc, en termes de qualité, ça peut être sujet à fausser nos interprétations, comme on peut le voir ici avec un bâtiment qui fait 7 mètres par 4. Donc, pour toute cartographie des formes alluviales, typiquement, ça peut être lié à certaines, on peut avoir certaines incertitudes. Alors, bien qu'à des échelles plus grandes et plus locales, on avait des documents cartographiques qui auraient pu apporter de la nuance à notre étude. Je vous parlais du cadastre napoléonien plus localement. L'échelle du bassin versant était vraiment au centre de ce travail. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le PTB souhaite faire émerger une solidarité à Montréal, que tout le monde adhère au projet du public. C'est pour ça qu'on sait vraiment l'étude s'est concentrée à utiliser des documents à cette échelle du bassin versant, alors que d'autres études, notamment en sud-ouest, donc là c'est la thèse de David sur la Garonne ou plus récemment sur la Charente, on voit un corpus documentaire beaucoup plus fourni que ce que j'ai pu vous présenter. Alors, une des pistes dans notre étude, ça aurait pu être de se concentrer sur les plans directeurs. Donc, ce sont c'est la cartographie du front de guerre entre 1916 et 1918, et l'ensemble du bassin versant de la Meurthe aurait pu être cartographié à une échelle de 1 dix000 ou 1 vingt millième, mais faute de temps, de moyens humains, on n'a vraiment pas pu exploiter cette piste. Donc, pour conclure, le cahier des charges a été plus que respecté par le laboratoire de géographie de l'Université de Lorraine, à tel point que nous, en fait, maintenant, en interne, on observe vraiment une appropriation de cette étude par nos élus. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Après, pour revenir sur les documents historiques, on observe deux grandes valorisations. Des documents avec une information plus qualitative qui vont nous servir à créer du récit, créer paysager, créer autour de développement industriel, par exemple, ce genre de choses, pour faire émerger la solidarité à Montréal. Et des documents qui vont nous servir à mesurer un état initial de notre milieu ou encore mesurer l'évolution des enjeux, par exemple en l'imageur, bien qu'on soit conscient des limites des documents, notamment les plus anciens. Donc, en termes de perspective, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Eh bien, ce qui aurait pu être intéressant, c'est limiter les imprécisions au sein de l'étude avec un protocole commun pour réduire la marge d'erreur de digitalisation et supprimer la subjectivité. Notamment, je finirai par ce document. C'est, pour remettre dans le contexte, un calage du cours de la Meurthe, donc du cours d'eau, d'après la carte d'état-major, fait par 6 opérateurs différents. Donc, c'était fait par des sigistes en année de professionnalisation, en licence pro, là encore. Et donc, les tracés pleins, ici sont les tracés de la carte d'état-major, vous pouvez voir ici, et en pointillé, ce sont les tracés du plan parcellaire du cadastre napoléonien. Donc, on observe une marge assez importante entre les différents tracés de l'état-major. On a un faisceau vraiment de divagation de 80 mètres, alors que le cours d'eau fait entre 10 et 15 mètres. Alors que pour le plan parcellaire du cadastre napoléonien, on arrive à réduire vraiment la marge d'erreur. Donc, conclusion, cette fois-ci finale, la carte d'état-major ne permet pas vraiment d'avoir un travail très précis, et si elle doit être utilisée par économie de temps notamment, ou encore pour raison de commodité, mieux vaudrait ne pas se contenter de faire le travail par une seule personne. L'idéal, mais assez difficile à mettre en pratique, serait de le faire par plusieurs personnes, ou du moins plusieurs fois par la même personne, et d'écarter, pourquoi pas, les valeurs extrêmes et de mesurer un tracé moyen. Donc voilà, je vous remercie.